Bonjour chers auditeurs. Au micro, Paul Ouzi Meyerson qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix, une émission sur Radio Shalom. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un conflit quelque peu estompé, recouvert par les grondements de la guerre en Ukraine et, pour ce qui concerne Israël, par l'attente du futur gouvernement déjà controversé que concocte Benjamin Netanyahou. Pourtant, ce conflit n'est pas si éloigné de nous. Il se déroule aux portes de Jérusalem et en Cisjordanie, qu'on appelle aussi en Judée et Samarie. Depuis janvier 2022, les actions terroristes menées par des Palestiniens y ont tué 30 Israéliens. En représailles ou à titre préventif, l'armée israélienne a opéré plus de 2000 raids menant à l'arrestation de 2000 activistes et à l'élimination de 150 combattants de divers groupes palestiniens. Depuis l'intifada El-Aqsa, la deuxième insurrection palestinienne en l'an 2000, je pense qu'on n'avait jamais connu un tel niveau de violence en Cisjordanie. Je ne parle pas de ce qui s'est passé par la suite à Gaza au cours des guerres d'Israël contre le Hamas. Est-on en train de vivre une troisième intifada rampante ? Pourquoi un tel regain de tension cette année ? Quel rôle joue l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas dans ce drame ? Pour répondre à ces interrogations, j'ai invité Stéphane Jouffa. Stéphane Jouffa est israélien, créateur et rédacteur en chef de la Metula News Agency, bien connu depuis de nombreuses années sous l'appellation l'AMENA. C'est un stratégiste, spécialiste des questions de défense et de diplomatie pour l'ensemble du Moyen-Orient. Il a côtoyé la plupart des dirigeants israéliens ces dernières années, dont Yitzhak Rabin et de nombreux responsables sécuritaires du monde arabe. Bienvenue sur notre antenne Stéphane Jouffa, est-ce que vous êtes là ?
Oui, vous dites juste, c'est Jouffa.
Hein, Jouffa, voilà, pas Jouffa, Jouffa, excusez-moi, je me suis trompé. Stéphane Jouffa. Ouais. Alors, première question Stéphane Jouffa, sommes-nous en présence d'une troisième intifada ? Pour l'instant, elle a fait beaucoup moins de victimes que la deuxième intifada. Autour de 1000 Israéliens et 3000 Israéliens avaient alors perdu la vie. Pourtant, certaines actions nous ramènent 20 ans en arrière, hélas. Par exemple, les bombes déposées récemment à Jérusalem près d'un arrêt de bus qui ont tué 3 juifs. L'affaire du jeune druze israélien enlevé à l'hôpital de Jenin et assassiné qui nous rappelle le lynchage des deux soldats de Tsahal à Ramallah en 2000. Les combats incessants dans les camps de réfugiés de la ville de Jenin. Comment, Stéphane Jouffa, vous expliquez ce soulèvement ? Est-il larvé ? Comment vous voyez les choses ?
C'est très différent des intifadas, Ouzi. Ouais. C'est une confrontation de spécialistes, si on peut appeler cela comme ça. D'un côté, l'armée israélienne et ses unités spéciales, et de l'autre, non pas des activistes, comme vous l'avez dit dans la présentation, mais des terroristes. Si on s'en tient à la définition que la MENA a proposée en 2004 et qui est aujourd'hui admise par toutes les institutions internationales, un terroriste étant un individu armés qui s'en prend spécifiquement aux civils. Donc ces individus palestiniens dont vous parlez sont spécifiquement et uniquement, à part les bavures bien entendu, des individus armés qui s'attaquent à des civils, et on parle bien de prévention, et cette prévention a commencé au mois de février-mars, lorsque la nouvelle vague d'attentats contre des civils israéliens a commencé, et donc à peu près chaque nuit, en tout cas 6 fois par semaine, des unités spécialisées, des commandos, des mistaravim, c'est cette unité de soldats israéliens qui sont habillés comme des Palestiniens, et ce qu'ils font tous dans les nœuds terroristes des villes arabes de Cisjordanie, c'est simplement d'aller appréhender des suspects qui sont ensuite remis à la justice et aux enquêteurs du contre-espionnage. S'ils n'ont rien à se reprocher, ils sont libérés. Et s'ils ont quelque chose à se reprocher, ils passent en justice et ils disposent en justice de conditions légales très strictes dans lesquelles ils peuvent tout à fait assurer leur défense avec des représentés par des avocats israéliens ou palestiniens de leur choix.
D'accord. pourtant, on est arrivé à un degré d'affrontement qui est très, très, très élevé. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec... Je ne parle pas de Gaza, bien sûr, c'est vraiment autre chose. Mais en Cisjordanie, en Judée-Samarie, on est arrivé à un degré d'affrontement qui est très important. Il y a eu des choses comme, vous l'avez entendu aussi bien que moi, l'histoire du jeune Druze qui a été enlevé et assassiné à l'hôpital de Jenin, la journaliste qui a été tuée par un tir, une erreur... Enfin, c'est quand même plus important que d'habitude.
Oui, c'est plus important que d'habitude pour la double raison qu'il y a eu cette vague d'attentats fomentée par ces terroristes tôt ce printemps à la fin de l'hiver, et puis cette décision de l'état-major israélien de ne pas laisser faire, de ne pas s'organiser des groupes de terroristes comme ça a été trop longtemps le cas sous les gouvernements Netanyahou, je tiens à le préciser. C'est-à-dire qu'on s'en fichait un petit peu, on créait des sortes de ghettos du terrorisme, et tant qu'ils ne sortaient pas de Jenin ou de Ramallah, on s'en fichait un peu. Ce qui a fait qu'ils ont amassé des armes et des munitions ainsi que des explosifs, et maintenant il faut les traiter là-bas, et c'est ce que Tsahal fait avec un certain succès depuis lors. Mais ce qui est important, c'est de garder en tête les proportions. C'est vrai que c'est beaucoup plus important... plus nombreux et plus violents que les dernières années. Vous avez parlé de 150 morts parmi les terroristes. Je dirais qu'il y a eu 140 terroristes tués et 8 cas avérés de victimes collatérales, c'est-à-dire des gens ou des journalistes qui se trouvaient proches des combats quand ils ont eu lieu, qui n'ont pas pris la précaution de s'éloigner. Et qui ont été très malheureusement, nous le regrettons évidemment, tués dans les combats. Mais Ouzi, ce qui est très important de définir pour qu'on ait une idée précise de ce qui se passe, 150 morts en une année, c'est moins que les 400 à 700 morts quotidiens en Ukraine.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que la guerre de l'Ukraine ça recouvre tout. Je veux dire, c'est une guerre qui n'a rien à voir. Enfin, c'est la dimension et.
Je suis d'accord. Vous y. Ça va plus loin que ça. En Ukraine, c'est une guerre. En Israël et dans les territoires palestiniens,
c'est la guérilla.
Et c'est une confrontation. D'un côté, 150 en un an, et de l'autre côté. 400 à 700 par jour. On ne peut pas comparer. Et ça nous donne une bonne proportion. Cela dit, je ne dis pas cela du tout pour protéger qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est inquiétant. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est l'aspect politique des choses. C'est-à-dire qu'aucune proposition n'est émise par personne en Israël, ni d'ailleurs au niveau de l'autorité palestinienne, pour mettre fin à cet état de choses et pour mettre fin à la confrontation. C'est à nouveau Benjamin Netanyahou qui a instauré cette approche, et cette approche, elle veut qu'on ignore complètement le problème palestinien. Ce n'est plus un problème politique, et depuis 13 ou 14 ans que Netanyahou est aux affaires, les seules relations, les seuls contacts qu'il y a entre les officiels palestiniens et israéliens, c'est au niveau des soldats, du renseignement, et c'est fait pour diminuer la hauteur de la flamme, si on peut dire. Mais il n'y a aucune discussion, ni dans la société israélienne, ni on a eu des élections, j'ai pas entendu pendant toutes les élections, aucun parti politique, qu'il soit de gauche à l'extrême droite, faire une proposition sérieuse, établie, détaillée, concernant la manière dont ils voyaient, dont ces partis voyaient l'avenir de nos relations avec les Palestiniens. Et ça, à nos yeux de stratèges,
C'est dramatique, ouais, c'est grave.
C'est préoccupant.
Oui, ouais, d'accord. Alors justement, puisqu'on parlait un peu des rapports entre les autorités sécuritaires israéliennes, Tsahal, et puis l'autorité palestinienne, Stéphane Jouffa, Jenin s'est situé en zone sous l'entier contrôle de l'autorité palestinienne. Alors, quel est le rôle de l'autorité dans la montée de cette violence? Il y en a qui disent que c'est le champ du cygne du président Abbas, le président de l'autorité palestinienne, parce qu'il ne maîtrise plus rien là-bas.
Mais alors, J'ai une réponse très simple et très imagée à votre question, Ouzi.
Bah, tant mieux.
Hier et avant-hier, il y a eu une descente des policiers de l'autorité palestinienne sur les points forts du Hamas en Cisjordanie. Et ils ont arrêté presque tous les responsables. Et je vous assure aussi que ce n'est pas de la manière relativement délicate dont s'y prend Tsahal et le contre-espionnage. C'est très très violent, il y a des morts, il y a des tortures, enfin, il y a tout ce qu'on peut imaginer dans un régime qui n'est pas précisément une démocratie, qui ne vit pas sous l'état de droit. Pourquoi ? Parce que le Hamas s'apprêtait à commémorer l'anniversaire de sa fondation et l'autorité palestinienne, c'est-à-dire le Fatah, était totalement opposée à cela parce que ça mettait en doute et ça posait un risque, notamment sur la paix civile, avec un réel risque de révolte, de révolution, peut-être de tentative armée même, de remplacer l'autorité palestinienne par le Hamas, parce qu'il y a cette guerre intestine qui est encore beaucoup plus violente, virulente et qui fait plus de victimes que les actions de l'armée israélienne. Donc l'autorité palestinienne est totalement opposée au Hamas et au djihad islamique parce qu'elle veut survivre, elle entend survivre, elle n'a que ce moyen aussi, ce moyen de recours à la force pour y parvenir. Démocratiquement, on ne sait pas du tout qui gagnerait entre le Hamas et l'autorité palestinienne en cas d'élection générale. Donc, pour se prémunir, pour garder l'autorité, pour rester aux affaires et empêcher surtout que le Hamas ne le déloge, eh bien, l'autorité palestinienne fait ce qu'elle peut, mais ce qu'elle peut. C'est-à-dire qu'il y a certains endroits où il y a plus de policiers, d'activistes ou de sympathisants de l'autorité palestinienne, là il n'y a pas de problème, mais Jenin est connu comme un centre névralgique dans lequel le Hamas et le djihad sont beaucoup plus nombreux que l'autorité, que les représentants de l'autorité palestinienne. Et dans ce cadre de situation, eh bien, il doit faire profil plus bas et l'autorité palestinienne n'a pas les moyens policiers pour faire entendre raison à ses opposants internes.
D'accord. Votre argumentation sous-entend peut-être que c'est le Hamas qui est derrière la résurgence de la violence en Judée et Samarie, en Cisjordanie?
Ouais, c'est assurément pas l'autorité palestinienne, parce que chaque acte de violence, chaque attentat sensibilise et fragilise l'autorité palestinienne. Donc parfois l'autorité palestinienne est obligée de rester coate ou de ne pas condamner ces attentats anti-israéliens parce qu'il n'y a toujours pas de processus de paix, il n'y a toujours aucune solution à l'horizon. Et l'autorité palestinienne, aux yeux des Palestiniens, est censée prendre soin de leurs intérêts. Et si elle montre qu'elle est d'accord avec les Israéliens, bah elle ne le fait pas. Donc assez souvent, elle se tait ou même indirectement, elle semble se réjouir de ses actes, même si elle ne le fait pas de manière trop vulgaire. Mais c'est clair que la violence, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, elle provient à 97-98% du Hamas, du djihad islamique palestinien.
D'accord. Stéphane Juffa, est-ce que les attaques contre les populations palestiniennes que mènent certains habitants juifs extrémistes de Judée et Samarie sont à l'origine ou participent aux causes de l'insurrection palestinienne, enfin l'insurrection entre guillemets?
Mais de nouveau, c'est pas une insurrection, c'est une organisation de certains groupes, comme celui dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, la Fosse aux Lions. Évidemment que notre propos n'est pas de justifier l'action de la Fosse aux Lions, qui sont de vrais terroristes, mais il est évident que les agissements de ces groupes extrémistes, moi je dirais même jusqu'à les classer sous l'étiquette de fascisants, carrément,
de
factieux également, donc ils sont totalement opposés à l'État d'Israël, J'ai vu dans une de ces implantations, j'ai vu une inscription sur un mur, Actionim Lolahad, qui signifie les sionistes pas pour toujours. Mmh. Ils aimeraient instaurer un régime de halakha, de revenir à l'époque des rois.
David Meller Israël.
Oui, mais ça, c'est presque humoristique. Mmh. Eux, ils le pensent vraiment, jusqu'à balancer des rochers sur les patrouilles de Tsahal, de balancer des produits chimiques dans les yeux
des soldats
et des soldates. Mmh. Donc là, je vous parle d'événements que j'ai vus de mes propres yeux, justement. Notamment, une officier de Tsahal qui est maintenant infirme à vie parce qu'une gamine surexcitée de ces mouvements-là a jeté de l'acide dans les yeux alors que l'armée envoyait des femmes pour déloger des femmes d'une implantation illégale. Ce qui nous fait très peur avec le nouveau gouvernement qui est en train de se former ces jours-là, c'est qu'on aura un suprémaciste, moi je les appelle fascistes, genre Ben-Gvir et Smotrich, qui sera responsable...
Qui n'ont pas fait l'armée.
Ouais, il sera responsable de ce qui arrive aux Israélites en Cisjordanie et également aux Palestiniens. Et ils entendent empêcher la haute cour de justice qui est en fait le garant, le bouclier, la muraille de jugement, de justice et de protection qui empêche les extrémistes de faire ce qu'ils veulent. Et il semble que cette muraille soit sur le point de tomber et que les suprémacistes entendent retirer le contrôle, le droit de contrôle de la justice israélienne, de la haute cour de justice, sur ce qui se passe en Cisjordanie. Et ça nous inquiète, Ouzi, énormément.
Je comprends très bien, je comprends.
Ouais, vous parlez de ces descentes, c'est carrément des descentes de ces extrémistes, je les appelle les édénistes aussi, les extrémistes religieux, sur les conurbations palestiniennes en Cisjordanie, extrêmement violentes. Et ils se sentent maintenant protégés par l'autorité israélienne. J'ai peur. Ça devient pratiquement
Alors,
insupportable.
Stéphane Dufat, là, le temps est passé. Voilà, j'avais encore quelques questions à vous poser, mais on n'aura pas le temps. Donc, je pense qu'on aura encore l'occasion de parler de tout ça. Je vois que vous avez de précieuses informations. Donc, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir participé à notre émission. Je rappelle que vous êtes là à Metula. Voilà. À bientôt, j'espère. Bonne semaine tous et à toutes. À dans 15 jours. C'était Paul Ouzi Meyerson à l'antenne avec Chronique pour la paix.